Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il, bien chère retraitante. La plupart d'entre vous êtes mariés ou allez l'être un jour. Aussi, je voudrais réfléchir avec vous quelques instants sur ce qu'est le véritable amour. En effet, je suis convaincu que c'est essentiellement de la qualité de votre amour que dépend la fidélité dans le mariage. Et pour voir ce qu'est le véritable amour, nous allons tout d'abord regarder cet amour en Dieu. En effet, l'amour de Dieu est le modèle du véritable amour. Mais pour imiter cet amour de Dieu, il faut savoir qu'à côté de cet amour, il existe une autre forme d'amour qui, si elle n'est pas canalisée, risque petit à petit de corrompre, de souiller et même finalement de détruire le véritable amour. Et n'est-ce pas malheureusement trop souvent ce que l'on peut voir aujourd'hui, des jeunes qui se sont donnés l'un à l'autre, des jeunes qui croyaient s'aimer pour toujours, ont fini, c'est l'histoire qui le montre et vous avez certainement des exemples sous les yeux, hélas, qui ont fini par rompre l'engagement qu'ils avaient pris devant Dieu, devant leurs amis et devant l'Église. Alors, pour prévenir cet écueil, il est bon de nous rappeler ce qu'est le véritable amour et quels moyens prendre pour nourrir, pour entretenir, pour embellir cet amour. Tout d'abord, nous pouvons observer, la foi nous le dit, que c'est l'amour qui est à la source de toute l'histoire de l'humanité. Le mystère de la création, le mystère de la rédemption sont des mystères d'amour. Dieu est amour. C'est par amour de nous qu'il nous a créés avant le péché. Et c'est après le péché, c'est encore par amour qu'il est venu nous racheter. Le bon Dieu, je le disais dans une instruction, est parfaitement heureux de toute éternité. Dieu possède toutes les perfections. Il ne manque de rien. Il se suffit à lui-même. Donc Dieu n'a pas besoin, pour lui-même, d'associer des créatures à sa gloire pour s'enrichir ou pour se distraire. Dieu possédant en lui-même la source du bonheur n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs le bonheur. Il le trouve en lui. Alors pourquoi le bon Dieu a-t-il créé le monde? Pourquoi le bon Dieu a-t-il créé le ciel et la terre? Pourquoi est-ce qu'il a créé les anges et les hommes? Eh bien, parce qu'il est l'amour. Et justement, l'amour cherche à se répandre. L'amour cherche à se communiquer. Alors que l'égoïste est quelqu'un qui vit replié sur lui-même, celui qui aime, au contraire, il sort de lui-même pour rechercher le bien de l'être aimé. Et donc le bon Dieu, étant amour, a voulu créer des êtres spirituels pour les faire participer à son propre bonheur. Les hommes comme les anges sont des créatures spirituelles. Dieu les a créés avec l'intention de les faire participer un jour à son propre bonheur. Et ce bonheur n'est autre que la participation de son propre bonheur. C'est quelque chose de merveilleux quand on y pense. Le bonheur que le bon Dieu nous a préparé au ciel n'est pas un bonheur humain, c'est un bonheur divin. Dieu nous a préparé au ciel une place, et cette place consiste à jouir de son propre bonheur. Naturellement, un homme peut aspirer à un bonheur d'homme, comme un animal, un bonheur d'animal. Si on peut parler de bonheur pour un animal, un plaisir d'animal. Eh bien, le bon Dieu, lui, a voulu nous enrichir bien davantage. Il a voulu nous faire participer à son propre bonheur. Les saints au ciel trouvent leur bonheur à contempler Dieu. Alors quel rapport, me direz-vous, avec le mariage? Eh bien, le mariage est une image de cet amour de Dieu pour nous. C'est dans l'épître qui est choisi pour la messe de mariage, saint Paul dit à la fin d'ailleurs de cette épître qu'il s'agit d'un mystère, mais saint Paul explique que les époux doivent s'aimer l'un et l'autre comme le Christ a aimé son Église et comme l'Église aime à son tour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le mariage est une image de cet amour de Dieu pour nous. Dans le mariage, on voit deux êtres qui s'aiment et qui scellent leur amour par un don total, par un don réciproque et par un don définitif. Et de la même manière que l'amour de Dieu l'a conduit à associer des créatures à son propre bonheur, de la même manière, les époux s'associent l'un à l'autre avec l'intention de faire en sorte que d'autres créatures, à savoir leurs enfants, puissent connaître à leur tour, participer à leur tour à leur propre bonheur. Et c'est la raison pour laquelle, pour faire un mariage heureux, si on a compris que l'amour consiste à donner plus qu'à prendre, la question qu'il faut se poser n'est pas « qu'est-ce que l'autre va m'apporter ?» mais plutôt « qu'est-ce que moi je vais pouvoir lui apporter ?» Qu'est-ce que moi je vais pouvoir lui donner ? Si dans le mariage, vous voyez, chacun tire la couverture à lui, et on est mal parti. On dit bien d'ailleurs que pour faire un mariage heureux, il ne s'agit pas tant de couper la poire en deux que de manger la poire à deux. Parce que si on coupe la poire en deux, c'est justement donnant-donnant. Et manger la poire à deux, c'est justement ce partage, c'est cette fusion. Ce sont ces épousailles. Épousailles veut dire justement cette union, union d'intelligence, union des cœurs, union des volontés. Et donc si les deux époux ont toute leur vie cette même attitude, ils sont sur la bonne voie. Et par contre, si, d'une façon parfois inconsciente, on aime l'autre que pour le profit qu'on en retire, eh bien on court le risque de ne pas persévérer. Parce que le jour où on aura l'impression que l'autre ne nous apporte plus rien, eh bien, on cherchera à s'en débarrasser. L'amour, voyez, en français, est un terme ambigu. L'amour recouvre deux réalités bien distinctes. Il existe un amour égoïste et un amour altruiste. Il existe un amour qui cherche à prendre et un amour qui cherche à donner. Lorsque je dis, par exemple, que j'aime le chocolat, eh bien, ce n'est pas le bien du chocolat que je cherche, bien sûr, c'est mon propre bien. Donc l'amour du chocolat est un amour qui est égoïste, qui n'est pas forcément mauvais. Il n'est pas forcément mauvais de bien aimer le chocolat, mais il faut savoir que c'est un amour égoïste. Et ce qui est vrai de la nourriture est vrai aussi de toutes les fonctions animales. L'homme a des instincts qui lui appartient d'assouvir ou de réprimer, suivant que ses instincts sont conformes ou non à la raison. Et pour un catholique, à la raison éclairé par la foi. Donc l'instinct a donc sa place dans l'amour lorsqu'il suit les règles de la raison et qu'il obéit au commandement de Dieu qui rappelle ces règles. Alors il ne faudrait pas réduire l'amour à cet instinct qui conduit l'homme à prendre plus qu'à donner. Et si dans l'amour on ne cherche qu'à prendre, on sera vite déçu parce que ce mouvement égoïste ne peut pas satisfaire le cœur humain. Notre cœur est fait pour aimer, mais notre cœur ne peut pas trouver son bonheur uniquement à rechercher une satisfaction personnelle. Il faut que l'homme arrive à imiter Dieu dans son amour. J'avais rencontré un jour au séminaire des personnes qui étaient venues me voir, ils avaient des problèmes dans un ménage, et lors de la discussion, j'ai pu voir l'homme à part, la femme à part, et après les deux en même temps. En sachant que lui était catholique non pratiquant, elle était protestante non pratiquante. Donc tous les deux sont venus me voir sur le conseil d'une personne qu'ils connaissaient. Et j'ai commencé à faire réfléchir un petit peu donc les deux sur la nature du véritable amour. Je dis, il existe différentes formes d'amour. Il y a l'amour passion, un amour instinct. Vous avez ensuite l'amour sentiment, et ensuite il y a l'amour don. Et bien évidemment que les trois formes d'amour sont présentes dans l'amour conjugal, mais il y a une hiérarchie. Et s'il est vrai qu'au début du mariage, c'est plutôt le côté peut-être passion et sentiment qui l'emporte, il faut que l'amour don soit présent dès le début. Et c'est celui-là qui est surtout appelé à grandir, à l'imitation de Dieu. Et à ce moment-là, la femme dit, oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce que dit le père. Et d'ailleurs, c'est dans cet esprit qu'on s'est marié. Et la réponse en ce moment-là de l'homme, c'était de dire non. Parce que si c'était vraiment dans cet esprit qu'on serait marié, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et de fait, il avait raison. C'est qu'ils avaient certainement vu à travers le mariage cet aspect premier qui souvent apparaît, de se sentir bien en présence de l'autre, donc une communauté d'affection et de sentiments, et peut-être de passion, mais ça s'arrêtait là. Et comme il n'y avait rien au-dessus, eh bien malheureusement, le mariage n'a pas pu tenir. Ou au moins, ils ont dû remettre les pendules à l'heure et repartir sur de bonnes bases pour faire en sorte que le mariage avance ensuite dans la bonne direction. Parce que finalement, d'ailleurs, à la fin de cet entretien, je les ai amenés l'un et l'autre à arriver à cette première résolution pour essayer de repartir au moins d'un bon pied. Ils ont pris tous les deux la résolution de ne voir pendant une semaine, ce que je leur avais demandé, pendant une semaine, de ne voir chez l'autre que le positif, pour remettre un pas en avant. Parce que quand les choses ensuite s'enveniment, en général, on ne voit plus que le négatif, on ne voit plus que les défauts de l'autre. Alors pour corriger la chose, pour repartir, je dis, si je leur dis pour toujours de ne plus voir que le positif, ils me diront, c'est un rêve, ou jamais je n'y arriverai. Je dis, pendant une semaine, c'est un délai plus court, pendant une semaine, essayez de ne voir chez l'autre que le positif. Et ils sont partis sur cette base-là, et ensuite, après, ils ont réussi à rester ensemble. Et aujourd'hui, ils ont, je pense, un ménage qui est de nouveau consolidé. Mais ceci pour vous montrer l'importance du don dans le domaine de l'amour. Et pour arriver à ce don, c'est sûr que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans la conférence, il y aura nécessairement, en ce moment-là, une forme de renoncement qui sera nécessaire. Si on veut aimer sans se renoncer, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas parce que, en raison des amours déréglés qui sont en nous-mêmes, si on ne veut rien renoncer, on ne pourra pas aimer comme on doit aimer. Et c'est parce que le renoncement qui nous est demandé au cours d'une vie et qui n'est pas toujours facile, qu'il est nécessaire de sceller son amour auprès du bon Dieu devant l'Église. Comme je vous l'ai dit, Dieu est amour, et l'amour en Dieu n'est pas un amour passion, ce n'est pas un amour instinct, ce n'est pas un amour égoïste, mais c'est un amour qui ne cherche qu'à donner, parce que Dieu est esprit et volonté. Dieu le Père a tant aimé le monde, dit saint Jean, qu'il lui a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur, à son tour, nous a tant aimés qu'il nous a donné son Esprit Saint, qui est justement l'Esprit d'amour. Notre Seigneur disait à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, eh bien le don de Dieu par excellence, c'est Dieu lui-même. Dieu qui s'est donné à nous par amour, Dieu qui a donné sa vie pour nous par amour, et Dieu qui veut venir en nous pour nous aider à aimer comme nous devons aimer. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui prenne possession de notre âme et qui arrive en nous à nous permettre d'agir comme nous devons agir. Le Saint-Esprit étant charité en Dieu, en venant en nous, nous apprend à devenir à notre tour charité. Au moment même où les conjoints prononcent leur oui, Dieu les unit l'un à l'autre. Et le bon Dieu dit en ce moment-là, il unit les conjoints entre eux, et comme il est dit dans le jour du mariage, le jour de la messe de mariage dans l'Évangile, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui unit les conjoints entre eux, et c'est Dieu qui va permettre aux conjoints de rester unis l'un à l'autre. D'où l'importance de s'appuyer pour les époux sur ce sacrement de mariage, sur la grâce du sacrement de mariage, pour rester fidèles l'un à l'autre. Et ensuite, pour alimenter cet amour, de la même manière que le jour du mariage est associé au sacrement de mariage, une messe, d'une façon ordinaire, eh bien c'est encore à la messe que les époux pourront entretenir et embellir même, je dirais, leur amour. Parce que chaque messe nous place sous la croix de notre Seigneur. Chaque messe nous remet sous les yeux ce grand mystère d'amour de notre Seigneur. n'y a pas eu d'acte d'amour plus grand que celui qui était présent dans le cœur de notre Seigneur au moment où il a donné sa vie pour nous, en mourant dans des souffrances atroces, physiques, morales et spirituelles, par amour de Dieu et par amour de nos âmes. Alors en voyant ce modèle, bien sûr que les époux chrétiens retrouvent tout de suite plus de force, plus d'énergie, plus de générosité pour entretenir leur propre amour lorsque celui-ci commence un petit peu à s'affaiblir. Et lorsqu'ils font il y a des dérapages aussi, comme c'est malheureusement le cas souvent dans la vie, eh bien le sacrement de pénitence aide aussi les conjoints à repartir sur de bonnes bases. Alors, mes chers amis, que Sainte Marie-Madeleine, que nous avons fêtée hier, vous aide aussi à aimer notre Seigneur comme elle a aimé. Si au départ, dans sa vie, elle s'est laissée complètement fourvoyer sur ce chemin de l'amour, elle a su ensuite rattraper tout cela et manifester à Dieu, à notre Seigneur, un amour vrai, un amour noble, un amour généreux, un amour magnanime. Qu'elle intercède par conséquent en votre faveur pour que vous grandissiez chaque jour dans la charité jusqu'au jour où nous rejoindrons notre Seigneur dans l'éternité bienheureuse que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chères retraitantes, nous arrivons à la fin de la retraite. D'abord, je dois vous dire que je suis toujours très heureux de prêcher les retraites et de voir l'action de la grâce dans les âmes. Et je pense que globalement, autant que je puisse en juger, et puis après les échos de mes confrères aussi, donc je pense que vous avez à peu près toutes fait une bonne retraite. Donc, remerciez-en le bon Dieu. Par rapport à ça, c'est sûr que l'une ou l'autre, on a préféré qu'elle se taise un peu plus ou qu'elle parle un peu moins. Mais il ne faut pas non plus juger uniquement sur les apparences. Ce n'est pas parce que des personnes ont des petits écarts extérieurs qu'elles n'ont pas pour autant suivi une bonne retraite. En tout cas, je ne le pense pas. Mais après, chacun son histoire, chacun son degré de vie spirituelle aussi, chacun ses tentations. Donc je pense que globalement, vous avez toutes fait une bonne retraite et donc remerciez-en aujourd'hui le bon Dieu. Et après avoir gravi le mont Tabor, il va falloir maintenant redescendre dans la vallée, bientôt, en retrouvant votre famille, votre travail, le monde. Alors un petit conseil peut-être, si vous pouvez, ça dépend après des personnes. Je sais que quelques retraitantes font ça parfois. À la fin de la retraite, elles essaient d'avoir un mot d'ordre qui leur sert un peu pour l'année à venir. Donc le mot d'ordre, ça peut être par exemple « tout par amour, rien par force ». Ça peut être « bon, à Jésus par Marie », ça peut être « tout pour Jésus », bon, « pour la plus grande gloire de Dieu bon. ». Après, chacune d'entre vous donc, peut trouver une citation qui résumerait un peu peut-être la grâce de la retraite pour vous aider dans l'année à venir à avoir un petit peu une orientation spirituelle. C'est juste un petit conseil. Sinon, je vous livrerai cette citation de la Sainte Écriture, donc d'un passage de l'Ancien Testament au livre de l'Ecclésiastique, où il est dit « Mon fils, pour dire ma fille, en entrant au service de Dieu, prépare ton âme à la tentation. » Donc c'est un passage qui nous avait été lu, nous, à séminaristes, donc quand on était rentrés au séminaire. Donc il s'adresse bien à ceux qui, en effet, se donnent à Dieu. Mais je pense que c'est aussi vrai pour les personnes qui ont passé quelques jours auprès du bon Dieu. On peut dire que le démon, bon, il était là aussi dans la retraite, hein, il a fait son boulot en partie, c'est sûr. Mais bon, le bon ange était là aussi, et heureusement qu'il a fait le sien. Donc vous avez pu, j'espère, dominer en repartie les tentations, mais c'est vrai qu'en rentrant dans le monde, il pourra y avoir certaines tentations. On pourrait dire quand même que même si donc il y a des moments... Je vous l'avais dit dès le début de la retraite, le démon fait son boulot dans une retraite. Malgré tout, pendant la retraite, il a quand même moins de prise sur nous. Et parce qu'on est quand même plus près de Dieu, donc on se rend davantage compte des écarts qu'on peut faire. Et on a donc plus de force aussi pour lutter contre les tentations. Et donc, faut se mettre à la place du démon. Imaginant ce qui peut ensuite arriver quand on revient dans le monde. Donc il y a plusieurs écueils possibles. Il y a l'écueil de l'angélisme, donc se croire parfaite parce qu'on a reçu des consolations dans la retraite. L'écueil du faux mysticisme, donc vouloir recréer artificiellement l'ambiance de la retraite chez vous, quoi. À mon avis, ça ne durera pas longtemps. Enfin, si vous êtes marié avec vos enfants, on vous ramènera très vite à la réalité concrète de la vie. Donc il faut de votre côté savoir accepter le retour à la vie quotidienne avec ce qu'elle peut avoir de monotone et puis de pénible aussi parfois. Après, il y a aussi l'écueil de l'autoritarisme, donc de vouloir imposer à tout prix notre manière de voir à notre entourage d'une façon trop abrupte. C'est un peu comme pour la confession. Normalement, la femme doit surtout confesser ses péchés et pas trop ceux du mari. Et bien après la retraite, c'est pareil. Bon, toi, tu as fait ta retraite, ben, suis tes résolutions, quoi. Mais moi je n'ai pas fait de retraite. Hein, donc. Donc, c'est gentil d'avoir pris des résolutions pour moi. Mais bon. Alors, c'est vrai qu'il peut malgré tout y avoir même des réformes à faire à la maison. C'est possible. Hein. Mais là, alors, sachez utiliser tout votre doigté, votre charme, votre tact féminin pour y arriver. Ensuite, il y a l'écueil de l'idéalisme. Donc, à savoir que d'imaginer que les difficultés qu'on a viennent toujours de notre entourage. Et donc se dire, moi, mon problème, c'est les autres, quoi, en gros. Eh bien non, il faut vous dire que l'on peut être un saint là où Dieu nous a placés. Et même non seulement on peut, mais on doit. Le bon Dieu veut qu'on se sanctifie dans le milieu concret dans lequel on vit. Bon, il y a des cas où on doit quitter le milieu lorsque ce milieu est mauvais et qu'on peut le quitter, bien évidemment. Mais d'une façon générale, on se sanctifie lorsqu'on a pris des décisions, en tout cas, qui sont définitives et qui ne peuvent pas, sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. On se sanctifie là où l'on est. Donc il faut toujours éviter de comparer sa situation personnelle à celle des autres qui sembleraient plus avantagés que nous pour conclure qu'on est les plus malheureux des hommes. Ensuite, après, l'écueil de l'idéalisme, donc l'écueil de la présomption. Ça, c'est encore un autre écueil sur lequel il faut faire attention. Alors on voit bien que certaines d'entre vous, voulant à tout prix éviter cet écueil, ont pris très très peu de résolutions pour être sûr d'aller tenir. En général, c'est pas mal aussi, mais non, il faut quand même en prendre un minimum. Quand même. Mais donc l'écueil de la présomption, c'est vrai, c'est que si vous en prenez trop, ben, c'est très beau sur le papier, mais on sait très bien que ça vous tiendrait peut-être 2 jours, 3 jours ou 5 jours maximum. Donc il ne faut pas vouloir en faire trop au début et finalement se décourager. Et si d'ailleurs parmi les écueils possibles c'est le découragement, donc rappelez-vous toujours que le découragement n'est jamais de Dieu. Le bon Dieu ne décourage jamais. Le bon Dieu encourage toujours. Et pensez que le vaincu n'est pas celui qui tombe, mais celui qui reste à terre. Donc la sainteté est une longue patience, donc il faut toujours se reprendre. Il faut avoir le courage de se reprendre. Donc, vouloir, au sortir d'une retraite, ne jamais retomber, ne jamais tomber, c'est encore la présomption. Il faut plutôt, eh bien, comme Sainte Thérèse, se dire « je suis petite ». Et ben, le fait que les petits tombent, ce n'est pas surprenant, parce qu'ils sont petits. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est avoir cette humilité d'accepter ses limites, mais ne pas ensuite, après, une fois qu'on est à terre, se dire « ben non, n'importe comment, j'y arriverai pas ». Non, il faut reprendre, et toujours reprendre, et toujours reprendre. Et d'ailleurs, pour ça, si vous avez du mal, si vous sentez que vous avez du mal à tenir vos résolutions, eh bien, confiez-les à un prêtre que vous connaissez ou en qui vous avez confiance, et puis demandez-lui de vous aider. Parce que c'est autre chose, c'est la confession où là, on confesse des fautes. Autre chose, et ensuite, des résolutions qui ne regardent pas uniquement les fautes, mais aussi les vertus, qui regardent donc des résolutions qui ne sont pas en rapport forcément direct avec un péché. Et donc, si vous avez besoin d'être guidé par un prêtre, n'hésitez surtout pas. Et puis après, il y a l'écueil de la faiblesse qui consiste à céder tout de suite à ses petites envies et donc finalement perdre très vite les fruits de la retraite. Donc faites attention quand même à cela. Pensez que la fidélité, elle est toujours liée à de petites choses. Voyez. Donc, ou l'infidélité aussi, malheureusement. C'est des petites infidélités qui peuvent ensuite entraîner une grande. Voyez. Et c'est la fidélité, au contraire, dans les petites choses, qui va garantir la fidélité dans les grandes choses. Donc, soyons, notre Seigneur lui-même l'a dit, hein, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. C'est pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter de l'avenir. Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure de l'avenir. Donc, et dans les moments un peu après l'épreuve, eh bien, en ce moment-là, on regarde juste devant soi. Quand je faisais du vélo, dans ma jeunesse, eh bien, quand je faisais de la montagne, eh bien, je ne regardais pas le sommet. Enfin, je regardais au début pour savoir où j'allais quand même. Mais ensuite, après, je ne regardais pas trop souvent là-haut parce que c'est vraiment très décourageant. Donc, je me regardais plutôt juste devant moi. Un coup de pédale, un autre, puis finalement, on arrive en haut. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'il faut faire dans les épreuves. Et il faut, en ce moment-là, se dire, ben, je vais essayer de vivre ben, jusqu'à ce soir. Je tiendrai quand même jusqu'à ce soir. Et je n'ai pas la grâce pour demain. Donc, mon Dieu me donnera la grâce. Donc, bien sûr, si vous dites, ça fait 20 ans que ça dure, je n'arriverai jamais à tenir encore pendant 40 ans comme ça. Alors, on comprend que c'est un peu lourd, quoi, c'est sûr. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Hein. Ce n'est pas ce que mon Dieu vous demande. Mon Dieu vous demande de porter aujourd'hui la croix d'aujourd'hui. Encore dans l'Évangile, à chaque jour suffit sa peine. Notre Seigneur nous a donné des conseils comme ça très précieux. Ça peut d'ailleurs être le mot d'ordre pour la sortie de retraite. Hein. C'est, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Ou ça peut aussi être NPSP aussi, ne pas se plaindre. Pendant un certain temps, on avait un expert comptable qui était ici, et puis donc qui surveillait donc, les finances séminaires. Bon, on a organisé les choses différemment. Et puis, je ne sais plus comment c'était arrivé, mais donc après, on se connaissait un petit peu. Et puis, je ne sais plus. Enfin, j'avais eu l'occasion de lui dire que j'étais allé prêcher. Donc, quelqu'un catholique, pas très pratiquant. Puis, je lui dis, voilà, donc, j'assure du ministère donc, dans une école. Et puis, j'ai donné aux enfants comme consigne pendant le temps de l'Avent. Alors, c'est quoi le temps de l'Avent? Bon, je vous expliquerai après. NPSP. Alors, ça veut dire quoi, NPSP? Ça veut dire ne pas se plaindre. Ah, oh ben ouais, si je pouvais dire mettre ça aussi dans mon bureau, ce serait vraiment formidable. Après, je vais expliquer c'est le temps de l'avant. Mais NPSP, c'est vrai que ça peut être une résolution. Ne pas se plaindre. Alors, quelle attitude maintenant pour adopter, pour ne pas perdre les trésors de grâce que vous avez recueillis au cours de cette retraite? Eh bien, les conseils pratiques qu'on vous a donnés vers la fin de la retraite avaient pour but déjà de vous aider à prendre donc de bonnes résolutions pour garder les fruits de la retraite. Maintenant, s'il fallait encore vous donner quelques petits conseils en complémentaire, donc le premier conseil que je donnerais se trouve dans les psaumes, et se trouve assez souvent dans les psaumes d'ailleurs. Et c'est un passage, et que Mgr Lefebvre aimait aussi à commenter, où il est dit, c'est dans le psaume 23, mais après ça revient dans d'autres psaumes, « Qui gravira la montagne sainte et qui se tiendra dans le lieu saint ?» Donc qui empruntera le chemin de la perfection et qui s'acheminera vers la sainteté. Et la réponse qui est donnée, l'homme aux mains innocentes et au cœur pur, lui qui n'a pas reçu en vain son âme et qui ne trompe pas son prochain. Et après, donc, il ajoute, telle est la génération de ceux qui cherchent Dieu, qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Donc, chercher Dieu. Avoir comme objectif, vous voyez, de toujours chercher Dieu. Il y a une... donc, dans les évangiles aussi, vous avez... la perle qui est perdue et donc on va chercher. Et donc c'est une image de cette recherche qu'on doit avoir de Dieu. Et celui qui a cette optique-là, vous voyez, chercher Dieu, eh bien, on peut trouver Dieu partout. On peut trouver Dieu, bien sûr, à la chapelle. On peut trouver Dieu dans son âme, si on est à la tête grasse. On peut trouver Dieu dans le prochain qu'on rencontre. On peut trouver Dieu dans les événements. Événements heureux, bien sûr que c'est l'occasion de remercier le bon Dieu. Dans les événements malheureux, c'est encore l'occasion de se rapprocher de Dieu. Dans la nature, on se promène dans la nature, on peut trouver Dieu dans la nature. Dieu est présent dans la nature. Alors c'est vrai que dans le monde artificiel d'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile de trouver Dieu, ça c'est certain. Mais en tout cas, là, au contraire, on voit des âmes qui vivent loin de Dieu, c'est l'occasion, pour vous, de vous rapprocher de Dieu pour prier pour ces âmes. Et donc même le contact avec... des personnes qui sont éloignées de Dieu ou des choses qui en soi éloignent de Dieu, c'est l'occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu. Donc avoir cette comme optique de penser que quand on dit qu'on doit faire sa prière le matin et le soir, donc on a la prière le matin, on a la prière le soir, mais ensuite, il faut que dans le reste de la journée, il ne faut pas que Dieu soit le grand absent. Il faut au contraire avoir le désir d'avoir une communication donc fréquente avec Dieu.
Notre Seigneur, pour lui, c'était bien sûr plus facile, entre guillemets, dans le sens où il avait la vision béatifique. Donc, il voyait Dieu tout le temps. Donc, en voyant les hommes, il voyait Dieu. Alors, bien sûr qu'il jugeait tout par rapport à Dieu. Mais la Sainte Vierge elle-même, qui était remplie de Dieu, eh bien, tous ces événements de la vie quotidienne, elle est jugée toujours par rapport à Dieu. Et donc, nous-mêmes, on doit se rapprocher de cet exemple. Et si vraiment vous avez le désir de chercher Dieu, donc de trouver Dieu, concrètement, cette recherche de Dieu se manifestera par un certain amour du silence. Je ne dis pas que vous vivrez toujours dans le silence, mais c'est sûr qu'une âme qui cherche Dieu vivra davantage dans le silence, c'est sûr. Parce que, je le disais au début de la retraite, le silence est l'atmosphère où le bon Dieu parle. Donc, et si dans une retraite, on a plus de facilité à trouver Dieu, c'est parce qu'il y a plus de silence. Donc quand je dis le silence, je pense à un moment de silence le matin, pour se tourner vers le bon Dieu, et puis ensuite le silence le soir avant le coucher, pour à nouveau donc, retrouver un contact avec Dieu. Et puis ensuite, au milieu de la journée, alors parfois c'est simplement des élans du cœur qui doivent monter vers Dieu, mais si vraiment vous avez cet amour du silence, eh bien vous saurez susciter des moments où vous pourrez ainsi vous rapprocher de Dieu. Et surtout, bien sûr que cette recherche de Dieu, et lorsqu'on sent le bon Dieu proche, en quelque sorte, est facile. Et lorsque le bon Dieu semble plus éloigné, c'est plus difficile. Mais la manière pour nous de nous raccrocher à Dieu dans les moments où le bon Dieu semble se cacher davantage, eh bien, ça doit être en ce moment-là une supplication plus ardente. Donc, faire un acte de foi. Mon Dieu, je crois, mais augmentez-moi la foi. J'espère, mais augmentez-moi l'espérance. Je vous aime, mais augmentez-moi la charité. Et pensons que pour notre vie, on a besoin des deux. On a besoin de consolation parce que c'est quand même un précieux adjuvant pour avancer dans la vie. Hein. Mais on a aussi besoin de sécheresse. Parce que par ces sécheresses, on arrive à mieux saisir la profondeur de notre néant. Les saints ont une connaissance expérimentale de Dieu et en même temps de leur néant. Et donc, mon néant, je l'expérimente davantage lorsque j'arrive à rien. Lorsque j'ai l'impression que je suis vraiment nul. Et pas quand je dis que je suis nul, parce que parfois je peux le dire sans le croire, ça c'est sûr. Mais quand vraiment j'ai conscience que vraiment je ne suis rien par moi-même, et alors il y a bien sûr l'impression d'être rien et un bon à rien, ça peut être du démon, dans le sens où c'est juste le repli sur nous-mêmes. Mais si j'ai conscience que je ne suis rien, mais rien par rapport à Dieu, et Dieu que j'aime, et Dieu que je sais qui m'aime, eh bien, en ce moment-là, vous êtes dans le droit chemin. Donc, c'est ce silence qui vous aidera, je pense, à arriver à cela. Donc, dans les périodes de sécheresse, pensez à cela. J'ai besoin de périodes où le bon Dieu se cache, à la fois pour que je lui montre que je l'aime vraiment, et pas uniquement le sucre qu'il me donne, et puis, en même temps, j'en ai besoin aussi pour mieux saisir la profondeur de ma misère. Et pour mieux compatir, après, aussi, à celle de mon prochain. Donc, ne pas abandonner le bon Dieu lorsqu'il se cache. Et ce qui vous aidera donc à avoir cette attitude juste par rapport à Dieu, c'est encore de regarder la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, il est dit deux fois dans l'Évangile, c'est intéressant, dans l'Évangile de Saint-Luc, et c'est au même chapitre. Donc, il ne faut pas penser que que Saint-Luc avait oublié qu'il avait déjà écrit ça. Donc, non, c'est dans le même chapitre, donc certainement qu'il l'a dit à dessein. Quant à Marie, elle conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Ça, c'est décrit juste après les événements qui entourent la naissance de notre Seigneur, donc la visite des bergers et l'intervention des anges, donc au moment des mystères joyeux, en quelque sorte. Et puis ensuite, c'est répété au moment où notre Seigneur est resté 3 jours au temple et a fini par... la Sainte Vierge a fini par le retrouver avec Saint Joseph. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs, il est dit, la question qui vient, vous voyez, toujours à notre esprit dans les épreuves, c'est pourquoi. Et c'est-à-dire, si vous occupez des malades, pensez souvent à cela. La question qui vient à notre esprit dans une épreuve, c'est pourquoi. Et la Sainte Vierge elle-même, elle perd son enfant, il reste 3 jours au temple, lui qui était si sage, si docile, si obéissant, qu'est-ce qui lui a pris? Donc elle le cherche tout angoissée, l'Écriture le dit bien, la Sainte Vierge était angoissée. Donc c'est, alors elle a pu dire, bon, puisque n'importe comment il est Dieu, il n'y a pas à m'inquiéter. Hein. Mais non, elle était vraiment, réellement angoissée. Et donc elle lui pose la question, mon enfant, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous? Et notre Seigneur dit, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et la Sainte Écriture ajoute, eh bien que Saint Joseph et la Sainte Vierge n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la réponse de notre Seigneur, la question de notre Seigneur. Mais après il est rajouté, quant à Marie, elle conservait toutes ces choses dans son cœur. Donc au lieu de se révolter, elle a suspendu son jugement et elle a essayé de réfléchir au sens de cette souffrance. Mais donc je dis que dans l'épreuve, la question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi? Et sur le moment, pas de réponse. La Sainte Vierge elle-même n'a pas eu de réponse à la question qu'elle se posait, puisque notre Seigneur, étant Dieu, répond en Dieu, et Dieu est infiniment au-dessus de nous. Donc nous, on aimerait bien que Dieu nous explique, il explique pourquoi on est éprouvé, pourquoi cette épreuve. Et bien sur le moment, pas de réponse. Et remarquez que notre Seigneur, lorsqu'il était au paroxysme de la souffrance sur la croix, donc il y a 7 paroles de notre Seigneur en croix, 7 paroles donc, au moment où il a souffert le plus, puisqu'il avait perdu déjà beaucoup de sang, il avait subi l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines. Et donc dans ces 7 paroles, on a encore le fond de l'âme de notre Seigneur. La première parole, notre Seigneur commence par Père, il s'adresse à Dieu qui est son Père. Donc Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La dernière parole, il s'adresse encore à Dieu sous la forme de Père, en disant Père, je remets mon âme entre vos mains. Et la 4e parole, qui est la parole centrale, qui est comme le paroxysme justement de la souffrance, là il dit mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Donc dans la parole centrale, au moment où il souffre le plus, eh bien, en ce moment-là, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi? Et pas de réponse sur le moment. Alors bien sûr qu'après, elle est venue, la réponse vient toujours. Le bon Dieu ne permet les séparations que dans le but d'union plus profonde. Il a permis la séparation de la Sainte Vierge et de notre Seigneur pendant ces 3 jours au Temple, dans le but de préparer aussi la séparation, donc je vous le disais, de notre Seigneur et la Sainte Vierge au moment du tombeau, mais aussi dans le but d'une union plus profonde. 3 jours de séparation entre notre Seigneur et sa mère quand il a 12 ans, 18 ans après de vie d'intimité, entre l'âge de 12 ans où notre Seigneur et l'âge de 30 ans où il va rester auprès de Marie et de Joseph. Donc la séparation est toujours dans le but d'une union plus profonde. Et notre Seigneur lui-même, il éprouve la séparation avec son Père dans le but d'une union entre notre âme et Dieu. Notre péché nous détache de Dieu, et donc notre Seigneur éprouve la peine due au péché par cette séparation de Dieu, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais en même temps qu'il dit cela, eh bien, il nous mérite pour nous-mêmes d'être réunis à Dieu. Donc la séparation est toujours dans le but d'une union plus profonde, même si cela est difficile à saisir au moment même de l'épreuve, d'où la question du pourquoi qui nous vient à l'esprit. Donc cherchons Dieu, premier conseil, et imitons la Sainte Vierge dans les épreuves en suspendant notre jugement, en pensant que le bon Dieu reste présent même s'il semble caché. Et puis ensuite, deuxième conseil, c'est de travailler à avoir une pureté d'intention dans nos actions. L'homme se contente du résultat, le bon Dieu voit le cœur. Et c'est le cœur qui compte. Les actions les plus banales, les plus insignifiantes, les plus anodines, peuvent nous faire grandir beaucoup dans la mesure où nous y mettons tout notre amour. Je ne dis pas un amour sensible, forcément. L'amour auquel je fais allusion, c'est l'amour de volonté, c'est-à-dire un amour d'union de notre âme à celle de Dieu, comme notre Seigneur qui dit « Non pas ma volonté, mais la vôtre ». Et c'est le signe de l'amour, c'est justement cela. L'amour conduit à l'identité des vouloirs. Donc la pureté d'intention est capitale. Si on fait l'aumône dans le but de se faire remarquer parce qu'il y a des gens autour de nous, eh bien, en ce moment-là, il y a la vanité qui se glisse dessus et donc on perd le mérite de la bonne action. Si on agit uniquement par corvée, c'est pareil. C'est bien sûr que bon, c'est déjà ça. Mais pour être débarrassé, on aura moins de mérite. Donc il faut essayer d'apprendre à agir par amour. Et pour agir par amour, on a besoin de purifier son âme et d'orienter son âme vers Dieu. Voyez. D'où l'importance de la prière. La prière, elle est là pour cela. Elle est là pour nous rappeler que Dieu est là et donc et d'agir en fonction de lui et non pas en fonction des hommes. Voyez. On voit, je ne sais pas si vous avez fait attention à cela, en écoutant les conférences de Mgr Lefebvre, on est impressionné de voir la sérénité qu'il a dans une période très difficile de crise de l'Église, où il est attaqué de partout, de tout le monde, enfin beaucoup de gens ne comprennent pas son attitude, et il garde une profonde sérénité. Et cette sérénité, il la garde. Pourquoi ? Parce que sa référence, on voit bien que c'est Dieu. Et parce qu'il sait qu'il a le bon Dieu avec lui, qu'on est unis ensuite aux 2000 ans d'Église qui sont derrière nous, c'est ça qui lui permet de garder la sérénité. Et on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à trop regarder vers les hommes et pas assez vers Dieu. Donc on cherche trop à plaire aux hommes et pas assez à plaire à Dieu. Et pourtant, Saint Paul disait bien, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Hein. Donc apprendre à purifier son intention, et pour avoir une intention pure, donc une intention qui ne soit pas mêlée d'amour propre, eh bien, notre référence, c'est Dieu. Même nous prêtres, c'est la même chose. On a besoin d'oraison, on a besoin... Les actes les plus grands qu'on puisse poser dans une journée, comme de dire la messe ou de dire son bréviaire, on pourrait très bien en arriver à dire ces actions d'une façon mécanique et machinale, parce qu'on le fait tous les jours. Et comment faire pour que ce ne soit pas mécanique et machinal ? Eh bien, on a besoin de se rappeler qu'est-ce que c'est qu'une messe, et régulièrement, on a besoin d'y repenser. Alors, si nous prêtres, qui baignons dans le spirituel, normalement, du matin au soir, on a déjà besoin de cela, je pense que les fidèles aussi, quand ils assistent à une messe, ils ont aussi besoin de renouveler leur esprit de foi pour mieux s'associer à ce grand exercice qu'est d'assister à la Sainte Messe. Donc, agir avec une pureté d'intention, et cette pureté d'intention, elle sera présente et relativement facile, je dirais, dans la mesure où notre amour de notre Seigneur sera vraiment réel et profond. Regardez une femme qui est jeune mariée, elle pense régulièrement à son mari. Elle va dire, oh, c'est vrai, ça fait une heure que j'ai oublié de penser à lui. Ah, ça y est, j'ai pensé à lui. Ouf. Non, ça se fait naturellement. Mais, si vraiment on aime le bon Dieu, ce sera pareil. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc cette vie en présence de Dieu vous aidera certainement donc, à être bien fidèle à vos résolutions. Et cette pureté d'intention aussi vous permettra donc d'acquérir, d'enrichir davantage pour le ciel. Et puis enfin, le dernier conseil alors que je vous donnerai, c'est donc d'éviter donc le découragement. Je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais là je le redis encore, parce que c'est très important. Dans la vie de Sainte Catherine de Sienne, on raconte qu'un jour elle était en proie à de terribles tentations. Et le démon, pour achever l'accabler en ce moment-là, profitant qu'elle était dans une profonde désolation, lui dit en ce moment-là, lui susurre dans l'oreille en disant « N'importe comment !» Toi que tu fasses, t'es foutu. Alors elle, en ce moment-là, elle a eu tout de suite ce sursaut. Donc on est saint. Ah, mais si n'importe comment, quoi que je fasse, je suis foutu. Alors à ce moment-là, c'était pas la peine de te déplacer pour me le dire. Donc le découragement n'est jamais de Dieu. Et donc le remède au découragement, c'est la confiance. Donc demandons à Sainte Thérèse, je vous parlais tout à l'heure de la petite voix de Sainte Thérèse, elle qui donc a choisi cette petite voie pour monter vers Dieu. Et, demandons-lui de nous donner, d'établir notre âme dans cette confiance. Puisqu'elle a dit qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre, eh bien, nous pouvons très bien l'implorer. Alors les vérités qu'on vous a présentées dans cette retraite étaient des vérités, donc, comme vous avez pu voir, assez générales. Donc on vous a parlé de ce que c'est que l'homme, de ce que c'est que Dieu, des moyens pour arriver à Dieu. Et ensuite, on a quand même voulu mettre l'accent sur la Sainte Vierge. Et c'est pour ça que je voudrais terminer par elle ces quelques réflexions ce soir. Pour vous montrer là encore la puissante intercession de la Sainte Vierge, je terminerai par une petite histoire, si je l'ai là, parce que je me suis encore trompé dans mes papiers. Alors, attendez, est-ce que je l'ai là ou pas? Alors, vraiment zut, je me suis encore fait avoir. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous la raconter telle que je l'ai de mémoire. Donc il y avait une religieuse qui s'appelait Sœur Catherine et qui avait une grande dévotion pour les âmes du purgatoire. Et puis il se trouve que donc dans le près du village où elle se trouvait, il y avait une femme qui s'appelait Marie et qui était malheureusement tombée dans le péché et qui était devenue vraiment une femme de mauvaise vie, au point que elle avait été rejetée par les gens du village et elle s'était réfugiée dans une grotte. Et donc au bout d'un très long temps, voilà que cette femme, donc, qui s'appelait Marie, bien s'est retrouvée toute seule dans cette grotte, et puis elle est morte. Et la sœur Catherine a appris sa mort, et en ce moment-là, elle, qui avait une très grande dévotion pour les âmes du purgatoire, n'a pas eu la moindre pensée pour elle, en étant persuadée qu'elle était damnée. Et puis le temps passe, et 4 ans plus tard, voilà que tout à coup, alors qu'elle était en prière, une âme du purgatoire lui apparaît. Et donc, elle dit « Mais qui êtes-vous ? » Et alors, en ce moment-là, elle dit « Je suis Marie qui vivait dans la grotte. »« Quoi ? Vous êtes sauvée ?» Et alors, elle répond « Oui, je suis sauvée. » Alors, « Mais comment ça s'est passé ?» Et donc, alors elle lui explique, elle lui dit « Eh bien voilà, j'étais seule dans cette grotte et sur le point de mourir, en ce moment-là, je me suis rappelé de la Sainte Vierge. Et je lui ai dit, ô Marie, ma mère, venez à mon secours. Et la Sainte Vierge m'a obtenu de faire un acte de contrition et j'étais sauvé. Et voilà. Mais maintenant, en attendant, vous ne priez pas pour moi, donc j'en ai encore pour un moment. Alors du coup, eh bien, dès qu'elle a appris ça, bien sûr qu'elle a fait dire des messes. Et quelques temps après, elle a eu la visite d'une âme qui était vraiment dans la plus grande joie, en lui disant « Merci beaucoup pour les messes que vous avez fait dire pour moi. Maintenant, je vais aller au ciel pour chanter les miséricordes du bon Dieu. » C'est une histoire qui est racontée dans le livre « Les gloires de Marie » de saint Alphonse Marie de Ligorie et qui montre bien la puissante intercession de la très sainte Vierge. Et donc, dans mon ministère, moi-même, j'ai été témoin de grâce comme cela, parce que c'est une année de Lourdes, c'est une histoire qui me rappelle une autre, mais j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'aller donc ma mère faisait une cure dans le sud de la France et donc j'étais allé la voir et puis à l'endroit où elle se trouvait un monsieur qui était dans la même maison une espèce d'hôpital me dit est-ce que je pourrais vous voir parce qu'il savait que j'étais là quelques jours, est-ce que je pourrais vous voir ce soir? Alors, je dis oui, très bien. Alors on se donne rendez-vous à 8h. Et puis, 8h, personne. Bon, 8h15, personne. 8h20, personne. Bon, je vais tout mon temps. Hein, donc je suis resté un peu plus longtemps. Il arrive à 8h30. Et alors, en ce moment-là, il commence par me dire « Ouais, donc, moi, je suis dans la misère. J'avais besoin des sous. » C'est encore quelqu'un qui vient me taper. Moi, j'avais tout mon temps en ce moment-là. Hein, j'étais pas pressé. J'étais en vacances. Et puis, alors, je me dis « Bon, je vais essayer quand même d'aller plus loin avec lui. » quoi. Et puis, alors, en ce moment-là, on commence à parler un peu religion. Et puis, alors je lui dis, parce qu'il m'explique en fait un petit peu, il commence à me raconter un peu sa vie, quoi. Il me dit qu'il avait le sida, qu'il était en fin de vie, tout ça. Alors à ce moment-là, je lui dis, mais est-ce que vous êtes confessé ? Confessé, c'est quoi ce truc-là ? Il me dit en ce moment-là, je veux bien me confesser, mais alors il y en a pour un moment. Hein. Oh, mais c'est pas grave, moi je suis pas pressé. Hein. Et en fait, il savait pas, mais j'avais les clés d'une chapelle qui se trouvait pas très loin de là, et donc on s'avançait vers la chapelle. Et puis, donc, la conversation avance. Et puis, alors, donc, il finit par dire qu'il était d'accord pour se confesser. Donc, j'ouvre la porte de la chapelle. Donc, je le confesse dans la chapelle. Et puis, à l'issue de la confession, à ce moment-là, il me dit « Oh là, est-ce que vous pourriez me donner quelque chose ?» Parce que vraiment, il était vraiment très... en souvenir de cette soirée, quoi. Alors, à ce moment-là, je lui dis « Ben, j'ouvre mon bréviaire. » Et puis, je me dis « Tiens, qu'est-ce que je pourrais lui donner ?» Alors, j'avais une image du cœur immaculé de Marie. Et puis, j'avais une prière de l'abbé Lapra, donc prêtre de la fraternité, qui est mort. Alors, il regarde les deux, et puis il est, en ce moment-là, pris par la prière. Et donc, c'est une prière de l'abbé Lapra où il offrait toutes ses souffrances, en fait, en union avec notre Seigneur. Et donc, je sentais qu'au fur et à mesure qu'il lisait la prière, il la faisait sienne. Et puis, il me dit, « Oh, ben, je prendrais bien les deux. » Je dis, « Prenez les deux. » Et puis alors, le lendemain, en ce moment-là, après, je lui ai proposé l'extrême-onction. C'est moi qui s'étais confessé. Donc, et donc, il a accepté. Donc là, maintenant, après, il connaissait la route pour aller à la chapelle. Donc, c'est un rendez-vous à la chapelle. Et donc, je lui ai donné l'extrême-onction. Et puis ensuite, au sortir de la chapelle, il me dit « Ah, mon père, j'ai peut-être jamais été heureux dans ma vie, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis heureux. Et c'est vrai ce que je vous dis, mon père. » Il dit « Non, mais je vous crois. » Et en fait, quand il m'a raconté sa vie, il m'a dit qu'il avait été à Lourdes, et là, il avait rencontré une infirmière qui avait dû peut-être lui apprendre un peu le « Je vous salue Marie », une prière, quoi. Et donc, ça a été quand même le premier contact. Le premier contact qu'il a vu avec la religion, c'était à Lourdes, en fait. Oui. Donc, c'est la Sainte Vierge qui a préparé le terrain. Et, voilà. Alors, si je vous donne ces exemples-là, c'est pour vous montrer qu'il faut avoir toujours confiance, bien sûr, dans la miséricorde du bon Dieu, et spécialement donc, dans la miséricorde de la très Sainte Vierge Marie. Donc, nous allons nous rendre à la chapelle pour les complices.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chère retraitante, voici arrivé au terme de cette retraite. Et à l'issue d'une retraite, c'est la coutume de renouveler les engagements des promesses de notre baptême. Rénovation qui a lieu aussi habituellement durant la veillée pascale. Et c'est vrai qu'il y a un lien entre le baptême et une retraite, dans la mesure où, au cours du baptême, eh bien, est effacée la tâche du péché originel, et au cours du baptême, la vie de Dieu vient prendre possession de notre âme. Et lorsque nous faisons une retraite avec la ferveur voulue, au sortir d'une retraite, nous avons affaibli les séquelles du péché originel et nous avons développé un petit peu plus la vie de Dieu dans notre âme. Et il y a aussi un rapport entre le baptême et la résurrection, et aussi entre la retraite et la résurrection. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les baptêmes d'adultes se font souvent pendant la nuit de Pâques. Puisque Pâques veut dire passage, le passage, c'est le passage de la mort à la vie. Ce passage de la mort à la vie, c'est le passage de la mort de notre Seigneur à sa vie de ressuscité. Donc, image de ce qui se produit dans l'âme au baptême. Et image aussi de ce qui s'est produit dans votre âme au cours de cette retraite. Et c'est pourquoi, pour terminer cette retraite, il me semble qu'il peut être bon de regarder à nouveau les effets produits en notre Seigneur ressuscité pour bien saisir les fruits que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui de vous au sortir de cette retraite. Et si on regarde un petit peu le changement qui s'est opéré en notre Seigneur après sa résurrection, on peut constater tout d'abord que notre Seigneur s'est ressuscité lui-même. On peut voir ensuite qu'après sa résurrection, il a mené une vie nouvelle. Et puis enfin, on peut constater que cette vie nouvelle est une vie qui est immortelle. Eh bien, ces trois aspects peuvent se retrouver aussi et doivent se retrouver en vous à la fin de cette retraite. Tout d'abord, notre Seigneur s'est ressuscité lui-même. C'est là le miracle par excellence de la religion catholique, la résurrection de notre Seigneur. Seul Dieu peut faire passer quelqu'un de la mort à la vie. Par conséquent, si notre Seigneur se ressuscite, cela veut dire qu'il est Dieu. La grande preuve de la divinité de notre Seigneur, c'est sa résurrection. Alors qu'en est-il pour nous ? Bien sûr que nous ne pouvons pas nous ressusciter nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu qui nous change. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme. Mais ce changement, cette transformation, ne peuvent pas s'opérer sans nous. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que le travail de notre résurrection spirituelle, le travail de notre sanctification, dépend de nous. De même que le corps de notre Seigneur était lié dans le tombeau, ben nous y avions, nous aussi, peut-être, en rentrant dans cette retraite, des liens qu'il fallait briser, des inclinations naturelles qu'il fallait corriger, des passions qu'il s'agissait d'éteindre. Ensuite, de même que le corps de notre Seigneur était dans le tombeau recouvert d'une grosse pierre, nous avions, nous aussi, peut-être, en rentrant dans cette retraite, le poids de notre cœur, le poids de notre lâcheté, contre lequel aussi il fallait lutter. Et puis ensuite, autour du corps de notre Seigneur, lorsque notre Seigneur est mort, il y avait ses ennemis qui étaient là, qui tenaient la garde pour empêcher qu'on enlevât son corps. Eh bien aujourd'hui, nous avons aussi, hélas, même encore après cette retraite, les ennemis de notre âme qui certainement guettent aussi pour nous tenter. Mais comme notre Seigneur, malgré ses difficultés, malgré ses obstacles, il nous faut à notre tour exécuter les promesses que nous avons faites le jour de notre baptême et les promesses que nous avons prises aussi auprès du bon Dieu par les résolutions que nous avons prises à la fin de cette retraite. Notre Saint Paul dit que nous sommes ressuscités avec le Christ et ensuite il ajoute « Si nous sommes ressuscités avec le Christ, eh bien vivons des choses d'en haut, cherchons les choses d'en haut, goûtons les choses d'en haut, non celles de la terre. » Et puis ensuite, en ressuscitant, notre Seigneur a repris une vie toute nouvelle, une vie glorieuse, une vie différente de celle qu'il avait menée auparavant. Dans sa première vie, notre Seigneur avait un corps faible, un corps sensible, un corps sujet à toutes les infirmités humaines. Et dans sa seconde vie, eh bien, il apparaît revêtu de force, invulnérable à toutes les attaques de ses persécuteurs. Son corps est devenu un corps spirituel que rien n'arrête. Et là encore, c'est une image des fruits que nous espérons acquérir à la fin de cette retraite. Nous aussi, nous avions besoin d'être réformés, d'être renouvelés de l'intérieur. Il ne s'agissait pas pour nous d'avoir simplement quelques petits changements extérieurs dans notre vie, mais certainement d'un changement plus profond. Et de la même manière, d'ailleurs, que dans la résurrection, c'est l'âme qui ramène le corps à la vie, eh bien, aujourd'hui aussi, pour vous, c'est certainement ce changement profond, ce nouveau regard peut-être porté sur Dieu, qui va vous aider à avoir ensuite une conduite nouvelle qui pourra se manifester aussi jusque dans des aspects extérieurs. Mais c'est bien l'intérieur de votre âme, je l'espère, qui a été changé. Et pour que ce nouvel aspect demeure, eh bien, vous avez besoin aujourd'hui encore de contact intime avec Dieu. Et c'est certainement d'ailleurs la plupart d'entre vous, une des résolutions que vous avez prises, de chercher à avoir des prières plus profondes. Et c'est précisément dans ce contact donc personnel de votre âme avec Dieu que vous pourrez, qui sera le garant de votre persévérance. Et puis enfin, la dernière caractéristique de la résurrection de notre Seigneur, cette résurrection de notre Seigneur lui a fait prendre une vie glorieuse et une vie immortelle. Aujourd'hui, notre Seigneur ne meurt plus. Et c'est là pour nous tous une invitation à la persévérance. Je suis persuadé, je le sais même, que vous avez toutes en ce moment de bons désirs, un désir de mieux faire, un désir de progrès spirituel, un désir de plus grande fidélité à votre devoir d'État. Et nul doute aussi que ces désirs seront efficaces. Vous essaierez dès aujourd'hui de mieux vous appliquer dans vos devoirs de piété, de mieux remplir tous vos devoirs vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de votre prochain. Mais la difficulté est celle de la persévérance. Combien de temps allez-vous être fidèle à vos résolutions? Combien de temps allez-vous conserver la ferveur qui est aujourd'hui présente au fond de votre âme? Je ne parle pas ici de la ferveur sensible que le bon Dieu donne parfois pour nous encourager, mais de cette ferveur qui n'est autre qu'une volonté ferme, une volonté décidée, une volonté déterminée à porter votre croix, quoi qu'il en coûte, malgré vos faiblesses, malgré vos chutes. Eh bien, la durée de notre fidélité à tous dépend de nous. En effet, la grâce ne nous fera jamais défaut. Dieu ne nous abandonne jamais le premier. Et il me semble qu'un des secrets que je vous redonne ce matin, c'est de nous convaincre de notre petitesse. J'ai commencé au début de la retraite par vous dire que raconter l'histoire de Zachée, où notre Seigneur demande à Zachée de descendre. parce qu'il désirait manger avec lui. Et bien, je le redis maintenant, au sortir de la retraite, hein, ce qu'il faut, c'est que nous soyons petits à nos propres yeux. C'est cette conviction profonde et réelle de notre petitesse qui nous aidera à éviter les deux principaux pièges de la vie spirituelle, la présomption et le découragement. Si j'ai conscience de ma petitesse, de ma vulnérabilité, j'éviterai de me mettre dans des situations dangereuses, parce que je sais que si je me mets dans une situation dangereuse, eh bien, vu ma faiblesse, je risque fort de tomber. Et puis ensuite, en reconnaissant ma petitesse, si je tombe, je ne m'étonnerai pas de mes fautes. Et justement, en prenant conscience de ma faiblesse, eh bien, je m'appuierai avec encore plus de ferveur et plus de confiance vers celui qui pourra m'aider à me relever, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors retenez bien, chères retraitantes, donc ces trois aspects de la résurrection de notre Seigneur qu'on peut appliquer à votre âme au sortir de la retraite. La résurrection spirituelle, si elle est avant tout l'œuvre de la grâce, est aussi notre œuvre à nous. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, disait saint Augustin. Ensuite, la deuxième conseil que j'ai donné pour que la résurrection spirituelle puisse se poursuivre dans le temps, c'est par un contact intime, profond avec notre Seigneur que vous pourrez manifester ce deuxième aspect de la résurrection de notre Seigneur, une résurrection qui lui a permis de mener une vie glorieuse. Et puis enfin, le troisième moyen d'arriver à rester fidèle à Dieu, c'est de nous convaincre de notre petitesse, troisième aspect. Et j'ai aussi commencé la retraite par le Père Vessière, et donc je terminerai aussi par lui, le Père Vessière qui disait « Plus on se fait petit, plus on permet à la Sainte Vierge d'être mère. » Plus on se fait petit, plus on est petit à nos propres yeux, plus on permet à la Très Sainte Vierge Marie d'être notre mère. Une mère, bien sûr, s'occupe de tous ses enfants, mais elle s'occupe spécialement des petits-enfants. Plus les enfants sont petits, plus la maman est attentive à ses besoins. Et bien, plus nous serons petits à nos propres yeux, plus la Sainte Vierge pourra exercer à notre égard sa maternité. Alors que Notre-Dame, la Vierge fidèle, nous assiste afin que les fruits de cette retraite se prolongent tout au long de cette année et tout au long de notre vie, jusqu'aux noces éternelles où la résurrection spirituelle fera place à la résurrection définitive dans l'éternité bienheureuse que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.